n'existant pas. Et ça, je crois que c'est la deuxième ligne de force aussi de notre réflexion.
Lim.
Bah moi, je suis scandalisé quoi d'entendre ça, parce que vraiment, moi, je suis botulien de la première heure. Je suis absolument persuadé que Botule existe, et même, on peut dire qu'il a toujours existé. Et comment on sait ce débat maintenant? C'est complètement grotesque, parce que c'est vraiment glisser de la philosophie à la théologie. Déclarer l'inexistence de Botule sans preuve, c'est comme déclarer l'inexistence de Dieu sans preuve. Il faut pouvoir quand même amener des preuves matérielles. Dire, comment prouver que Dieu n'existe
pas? Alors là, vous adressez à BHL, lui demandant d'apporter des preuves de l'inexistence
indirectement,
de Botule.
Indirectement, certes, je lance le débat. Je demande l'ouverture d'un vrai débat ou une table ronde avec les théologiens, les spécialistes de la chose religieuse, qu'on en discute tous ensemble. Dieu et Botule, existent-ils ou pas? Et on pose le problème. Et on essaye d'en parler sérieusement.
En tous les cas, pour Alexandrine, Botule existe, puisque vous avez publié plusieurs bouquins. Hein ?
Il a déjà publié, effectivement, 4 ouvrages.
Voilà, parce que pour BHL, il n'y a que la vie sexuelle de Kant qui l'a intéressé, mais il aurait pu s'intéresser...
Il aurait pu s'intéresser à Landru.
Landru, précurseur du féminisme.
Absolument.
Il aurait pu s'intéresser à Nietzsche et le démon de midi.
Savoureux.
Il aurait pu s'intéresser à la métaphysique du mou.
Vous avez intéressé, puisque ces ouvrages sont traduits à travers le monde entier. On peut lire Botule en allemand, en castillan, en roman, en portugais, en norvégien, au Brésil. Et puis là, on a l'œuvre effectivement qui se construit, puisque l'armoire de l'arrière où les premières archives, les premiers textes, les premiers bouts de textes, puisque c'est aussi un fondamental chez Botule, c'est-à-dire qu'il est un philosophe de tradition orale, donc il n'a normalement rien laissé, sauf quelques petits bouts, si j'ose dire, dans cette fameuse armoire en bois fruitier, dans laquelle nos amis émérites de l'association des amis de Jean-Baptiste Botule, justement, œuvrent à reconstruire cette œuvre.
Il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Je voudrais savoir d'abord comment vous avez rencontré Botule. Frédéric Pagès, c'est vous le découvreur de Botule? Comment ça s'est passé, votre première rencontre?
C'est notre Saint-Paul à nous.
Oui, c'est toujours... bon, je ne voudrais pas être trop personnel ni trop intime. C'est une expérience effectivement assez bouleversante. Ça se passait en 1995. Et je peux juste dire que j'avais réuni quelques amis à la Sorbonne pour ce qui s'appelait à l'époque le banquet du bac philo, pour perpétuer la tradition orale de la dispute philosophique, c'est de la disputatio, comme on disait en latin au Moyen-Âge, qui est un match de philo sur des sujets philosophiques qui occupaient beaucoup les universitaires pendant des siècles à la Sorbonne. Et j'ai trouvé dommage que cette tradition se perdent. Et donc j'avais, à l'époque, de moi-même, invité des avocats, des comédiens, quelques profs de philosophie, même à la Sorbonne. C'était la salle Louis-Liard, quelques-uns s'en rappellent. Ça avait été enregistré par France Culture. À partir de là, je passe les détails, est venue l'idée de formaliser, d'organiser ce grand mouvement de tradition orale, cette renaissance, en quelque sorte, de la tradition orale en philosophie. Et avec d'autres amis, dont certains sont autour de cette table, le nom de Botule, comme ça, comme la langue de feu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, est descendu sur nos têtes. Et Jean-Baptiste Botule nous a été révélé, en quelque sorte, difficilement, puisque, comme on l'a dit, c'est un philosophe de tradition orale. Nous ne savons quasiment rien, ni de sa vie, ni de son œuvre.
Vous savez beaucoup de choses de sa vie. Ou alors,
nous ne savons rien de certains, je veux dire, Daniel Mermet.
Oui.
Toute proposition... Mais le problème du botulisme est là, et on le touche du doigt, et merci de me donner l'occasion de le dire. Dès qu'une proposition botulienne soit de nature théorique, soit biographique, est avancée dans le mouvement botulien, automatiquement, des contestations, des critiques, des discussions jaillissent, car rien n'est établi de façon encore certaine. Nous sommes un mouvement jeune, il faut le dire, le botulisme a été freiné dans son expansion, parce que botulisme, en médecine, ça désigne une maladie grave, due à la toxine botulique, la charcuterie avariée, enfin les auditeurs savent de quoi on parle. Donc le botulisme, au sens philosophique, a été considéré comme une maladie. À ce titre, peu diffusé, peu propagé en France, car nous n'avions pas envie d'être accusés d'atteinte à la santé publique.
Alors vous étiez tous là ce jour-là, ou bien comment les uns et les autres vous êtes venus au botulisme, Hervé par exemple, Hervé Le Tellier?
Je me souviens d'avoir été l'une des personnes qui participait à cette magnifique rencontre à la salle Louis-Liard, où j'avais passé le bac sur un sujet qui devait être « Faut-il perdre ses illusions ?»
C'était un sujet du bac.
C'était un sujet du bac. C'est vrai que le botulisme, l'esprit du botulisme planait sur les eaux et c'était l'occasion de le revigorer, de lui donner du sens, de lui donner un contexte dans lequel il pouvait croître, multiplier, connaître une expansion qui aujourd'hui arrive par un hasard absolument invraisemblable à une sorte de petit sommet momentané que nous espérons dépasser dans les années qui